La méditation de celui qui a écrit l'imitation de Jésus-Christ au 5e siècle. Les plus grands saints aux yeux de Dieu sont, à leurs propres yeux, les plus petits. Et plus leur vocation est sublime, plus ils sont humbles dans leur cœur. Pleins de la vérité de la gloire céleste, ils ne sont pas avides d'une gloire seconde. Fondés et affermis en Dieu, ils ne sauraient s'élever en eux-mêmes. Rapportant à Dieu tout ce qu'ils ont reçu de bien, ils ne recherchent pas la gloire que donnent les hommes. Ils ne veulent que la gloire qui vient de Dieu seul. Leur unique but, leur désir unique, c'est qu'il soit glorifié en lui-même et dans tous les saints par-dessus toutes choses, que soit lui qui soit glorifié. Soyez donc reconnaissant des moindres grâces divines et vous mériterez d'en recevoir de plus grandes encore. Que le plus léger don, la plus petite faveur, ait pour vous autant de prix que le don le plus excellent et la faveur la plus singulière. Parce que si vous considérez la grandeur de celui qui donne, rien de ce qu'il donne ne vous paraîtra petit ni méprisable. Car peut-il exister quelque chose de petit ou de méprisable dans ce qui vient de Dieu? Nous sommes à 19 jours du 8 décembre. C'est le 29e dimanche du temps ordinaire, avec avec la première lecture qui vient du prophète Isaïe, le 53e chapitre d'Isaïe, du prophète, de celui qui était de race royale en Israël et sacerdotal. C'est un des nachis d'Israël, des grands nachis d'Israël. Et il a vu que le Messie, celui qui illumine et transfigure les Otmaïa Talmud, les doctrines de la loi, lorsque on va jusqu'au fond mystiquement de la vie intérieure dans le Messie, en Israël pendant 13 siècles, se manifestait comme ça à ceux qui donnaient toute leur vie au Messie avant qu'il n'arrive. Et comme le Messie était au principe de la fondation du monde, et il envahissait les saints d'Israël, les prophètes et les rois. Enfin, les rois, les saints, les nachis, et le Messie n'était pas un être lointain qui devait venir un jour, pas du tout. C'était quelqu'un qui était présent au fond de leur cœur, au sommet de leur esprit, et aussi dans leur chair. Mais ils vivaient, au fond, ce que le Messie vivait. Et le Messie était cette nuée de lumière, cette nuée de lumière vivante, très très proche de tous les hommes. Et c'est choisi, et c'est choisi, c'est ce qui vivait du Messie. C'est pour ça qu'il y avait tellement d'expériences de transfiguration. On reconnaissait un prophète. On pouvait voir un prophète visiblement, à cause de la lumière. Au pied du figuier, c'était le Messie qui parlait à travers la bouche des prophètes. Visiblement, on peut dire. Et Isaïe, le prophète, évidemment, c'est une... Mais quand le Messie était en les sommets de sa présence incarnée, si je puis dire, regardait un petit peu qu'elle était sur lui et sur son peuple. Sa mission de serviteur, sa mission rédemptrice. Alors, comme c'était le cas dans l'humanité de Jésus, qui était le Nashi, le prince, le roi, le Seigneur par excellence, le prophète, le saint. C'était vraiment le juif par excellence, le Yehudi par excellence. Et il voyait, donc, il a vu dès le premier instant de sa conception en Marie, ce qu'il était, dans ce pourquoi il était là, présent dans le monde. Il est venu pour vivre le poids de la croix. Alors Isaïe le prophète, lorsqu'il vivait du Messie, qui surabondait, le Messie surabondait en lui, voyait la passion du Christ. Et c'est pour ça qu'on a tous ces passages du prophète Isaïe sur le fait que le Messie, non seulement était illuminé, non seulement de sa présence messianique, de sainteté lumineuse, qu'on appelle la Kabbade, la gloire sensible, la gloire de Dieu manifestée, mais en plus, cette gloire était contenue par un poids beaucoup plus puissant. C'est la coupe qu'il devait boire, hein, la passion. Alors le chapitre 51, 52, 53, 54 du prophète Isaïe, et c'était insupportable ça, à ceux qui disaient, voilà, nous on est des saints, nos prêtres, nous écoutons, nous voyons la gloire du Messie à travers le visage de la grâce de la Kabbotique. On a vu, nos pères ont vu tous les jours le Messie dans les nuits du ciel ouvrir la mer rouge. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui n'ait pas vu le Messie dans son rayonnement, dans son apparition à travers la grâce messianique. Bon, ceux qui sont très loin, parce qu'à cause du péché, ils le voyaient de loin, mais ils le voyaient. Ils faisaient partie du peuple de Dieu. Et ça, c'est notre fierté, quoi. On est vraiment au milieu des hommes de la terre, ceux qui sont les plus proches de Dieu. Et on est à chaque fois glorifié, à chaque fois repris, à chaque fois miséricordieux. Voilà, et on a ce texte du prophète Isaïe qui dit, oui, mais je suis venu comme serviteur, souffrant. Et Isaïe a vu la passion, il a vu que le Messie, c'est pas seulement... n'est pas premièrement la gloire, la victoire royale, la saveur de la lumière, la sécurité, voilà, la royauté sur le monde, même sur le monde intérieur et spirituel. Le Messie, c'est Jésus, c'est le crucifié, c'est le serviteur souffrant. Il remet sa vie, il est sacrifié, il répare, et s'il plaît à Elohim, eh bien c'est parce qu'il offre sa vie en sacrifice, et il verra du coup une descendance à cause, non pas de sa gloire messianique, mais à cause de ses tourments, à cause de sa croix. Et c'est à cause de sa croix que il ira jusqu'à la mort, il sera anéanti par ses tourments. Et la connaissance qu'il est au sommet, grande profondeur d'amour de son cœur messianique tourmenté, va envahir toute son âme parce qu'il se relèvera. Il prolongera ses jours de résurrection. Et c'est par lui, par ses tourments, que la volonté de Dieu réussira. La volonté de Dieu, c'est que tout soit anéanti de la gloire qui est sur la terre, même la gloire messianique. Et pour que ce soit Dieu seul qui soit glorifié. Le Messie est un serviteur souvent qui se charge de toutes les fautes. Et c'est pourquoi il sera anéanti. Alors Israël, lorsqu'il entendait le prophète Isaïe dire ça, était scandalisé. Il dit quoi ? La gloire du Messie sera anéantie. Ce sera rien du tout. Et du coup, il a été évidemment, comme tous les prophètes, persécuté. Il trouvait ça tellement insupportable qu'ils l'ont, malgré son rang, malgré l'évidence de la lumière qui émanait de lui. C'est vraiment un des plus grands archers d'Israël, Élisée. Ils l'ont torturé. Ils l'ont scié avec une scie à bois, petit à petit. Eh bien, le prophète Isaïe, on ne peut pas dire, aujourd'hui encore dans les synagogues, il est interdit de lire Isaïe le prophète dans la synagogue, le rouleau d'Isaïe n'est jamais lu dans la synagogue. Dans la synagogue de leur cœur seulement, s'ils aiment le Messie. Alors, il n'y avait personne de plus proche que les nations d'Israël, que les enfants d'Israël sur la terre. Personne n'était si proche. Mais ce qu'il y a de plus grand en Israël, c'est la prophétie, c'est la royauté. Et puis, c'est le sacerdoce victimal, mais vécu comme anticipation. Le sacerdoce lévitique n'est pas un sacerdoce victimal que par appel, que symboliquement on sacrifie des bêtes. C'est un sacerdoce victimal. Alors c'est bien que quand les apôtres sont là avec Jésus, quand c'est Jésus lui-même qui est là, quand il est incarné, quand il est Dieu au sommet, il voit Dieu sans aucun voile, dans les sommets de son intelligence, dans les profondeurs de son cœur humain, il est dans la béatitude glorieuse et invincible de Dieu, dans les fonds du cœur sacré de Jésus humain. Dans sa mémoire, il est victime. dans sa liberté humaine, il est victime. Il est broyé, quoi. Il est livré immédiatement, il se jette, comme on se jette dans un feu, à l'intérieur de tous les tourments, d'un état victimal. Et en plus, en rendant grâce à Dieu. Ça, on appelle ça l'Eucharistie. En rendant grâce à Dieu, il se jette dans les tourments de son état victimal humain, de sorte que les profondeurs de son corps, qui sont irradiées par la béatitude invincible de tous les saints du ciel, depuis la fin du monde jusqu'à l'éternité. Et les sommets de son intelligence sont comme repoussés sans arrêt à l'extérieur de lui, et de rentrer, si je puis dire, sont projetés hors de lui, à sa droite, à sa gauche. Et c'est pourquoi il y a Jésus, et puis ceux qui sont à sa droite, à sa gauche au ciel, à qui il est réservé d'être à sa droite, à sa gauche, et qui ont, pour ainsi dire, incarné de manière sponsale cet état de victimal, eucharistique, sacerdotal, éternel d'amour, celui que le Père veut, la sagesse du Messie, c'est pas une sagesse de jubilation dans la lumière d'une sainteté qu'on n'a pas méritée. Hein. Non seulement il va boire à la coupe, mais en plus, il va la faire boire. Alors, c'est bien que qui avait-il de plus proche, au fond, pendant ces 3 ans et demi, ces 1290 jours, que les apôtres et Jean et Jacques étaient les deux premiers, quand même, avec André. C'était les deux premiers. Mais André est parti tout de suite chercher son frère. Donc, les deux seuls qui étaient les plus proches depuis le début, les plus intimes, les plus, ceux qui étaient capables de rentrer à l'intérieur, vraiment, du cœur de Jésus dans ses profondeurs, pour voir qu'il y avait quelque chose de plus que la cabode messianique, qu'il y avait la jubilation de la gloire éternelle du ciel, dont il était finalement le Seigneur, le serviteur et le maître. Là, il pose la question à Jésus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Elle est belle la réponse de Jésus. Hein. Déjà, il fait tout ce qu'il... Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Il est prêt à tout pour chacun d'entre nous. Hein. Il est prêt à tout. Et il a assumé, comme dit le prophète Isaïe dans le passage 53 qu'on vient de lire, il a assumé tous les tourments de la chair humaine possible. Il s'est chargé de toutes les conséquences, de toutes les fautes et de toutes les souffrances humaines. Quand on voit par exemple aujourd'hui certaines vidéos où on voit les enfants des hommes dès leur conception, alors qu'ils sont protégés par le sein de leur mère, dans la joie ineffable, si je puis dire, d'avoir dit oui à ce qui est inscrit pour eux dans le livre de la vie mérité par le Christ. Quand on voit qu'ils sont détestés par leur mère, par le médecin, par l'humanité tout entière, et puis on les voit sur des vidéos qui sont arrachées, et qu'on les accumule dans des usines, alors qu'ils sont encore vivants par centaines, par milliers, avec des femmes qui les mettent, qui disent parce que c'est vivant et souffrant, qu'ils sont beaucoup plus utiles pour la science, pour l'industrie, pour les cosmétiques, pour les cosmétiques, pour être plus beau extérieurement. Et ils sont là, et ils sont. On voit cette vidéo où les femmes, les hommes, les manipulent, dans une souffrance inouïe, parce qu'il n'y a pas plus grande torture pour un embryon que de souffrir dans une agonie sans mourir, tout en mourant et en étant torturé. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches de la créature de Dieu, plus proches que les adultes. Donc leur mort vient beaucoup plus difficilement. C'est pourquoi ils résistent à la mort. Le Christ a supporté cet état de torture et de mort toute sa vie, depuis la conception. À cause de ça, de ce qui se vit aujourd'hui, quand on voit ces vidéos, on sait que le Christ a pris pour chacun de ces embryons, qui sont 10 millions par jour quand même, pour chacun d'entre eux et pour chacun d'entre nous, cette torture absolument insupportable, parce que c'est la souffrance d'un embryon qui devait être supportée d'un seul, qu'on traite de cette manière-là, par 100 personnes adultes, fortes, vigoureuses, elles mourraient dans la minute. Toutes les 100. Eh bien, le Christ, il a pris toutes les souffrances de tous les hommes en entier. Et Dieu a voulu qu'il les prenne et qu'il soit anéanti. Que sa gloire messianique soit anéantie. Et que ce soit Dieu, pratiquement pour ainsi dire, l'enveloppant en dehors de lui dans cette mort, dans cet anéantissement et cette disparition, qui le ressuscite d'entre les morts. Et qui fait que ce qui est au sommet de son intelligence et aux profondeurs de son cœur, cette béatitude invincible, soit à sa droite et à sa gauche, pour l'éternité. Donc Jean et Jacques disent, nous voulons être à ta droite et à ta gauche dans ta gloire. C'est terrible de voir qu'il est venu, Dieu est venu chez les siens. Il aura tout donné, mais ils ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Marie et Joseph, oui. Marie et Joseph, bien sûr, sont l'émanation, l'incarnation de ce que la croix de Jésus projette en dehors de son union hypostatique, pour ainsi dire hors de lui-même, pour l'envelopper et faire qu'il puisse exister sur la terre et dans l'éternité des cieux. Pour être les parents, pour être les hommes, pour le principe de sa droite et de sa gauche, à la droite de Jésus, à la droite de Dieu, à la droite de l'époux, il y a l'épousée. Elle est épousée, elle est mère, parce qu'elle est elle-même épousée à la droite de l'époux. C'est pas bien difficile de savoir qui, et Jésus lui dit, c'est même pas à moi de décider qui doit être à ma droite et à ma gauche. Mais c'est à Elohim, le Père, et l'épousée, le Fils, le Verbe de Dieu, et le Saint-Esprit, qui en décide. Mais moi, je ne suis libre, si je puis dire, que de cet état de serviteur victimal pour la destruction de la gloire de Dieu dans toute la création. Dans le temps de la terre. Je suis l'incarnation, je suis l'hostie vivante, je suis l'état victimal du prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. Je suis l'agneau, je ne suis plus le symbole. Je suis l'humilité substantielle de l'effacement absolu de Dieu en toute vérité dans mon incarnation. Alors ceux qui sont les membres vivants de moi vivant, à ma droite et à ma gauche, vivent la même chose que moi, puisque c'est ça qu'ils ont engendré en moi, dans ma messianité glorieuse, disparaissant dans la sagesse de la volonté du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que la sagesse de Dieu, qui est au principe de la création, c'est la sagesse de la croix. Et c'est pour ça que Jésus, quand même, dans une miséricorde très grande, à Israël, dit à Jacques et Jean, dit, ma coupe, est-ce que vous allez la boire? Oui, vous allez la boire. Mais quand tu as siégé à ma droite et à ma gauche, c'est-à-dire être avec moi, dans une grâce d'infinité, transsubstantielle et transactuelle, avec ma divinité, dans la messianité elle-même, et dans l'éternité, c'est autre chose. Marie est mère de Dieu. Et vous, Jacques, Jean, vous n'êtes pas que les ailes de ma gloire, non. Vous n'êtes pas la mère de Dieu, vous n'êtes pas ma maman. Vous n'êtes pas la mère de Dieu. Ce qui établit, Jésus révèle de cette manière-là, que Marie, Joseph et leur responsabilité ont connu une participation à la croix qui est substantielle. Et dès la conception. Et ceci pour l'un et pour l'autre de manière complémentaire. L'humilité de Jésus est totale. L'humilité. Et c'est là que Jésus, dans son humanité, et dans une humilité, il s'humilie. Et c'est pas seulement qu'il s'humilie, c'est qu'il est en dessous. Il est moins que rien devant Dieu. Et pourtant, il est enveloppé par Dieu. Il est dans une union plus forte qu'il, à l'intérieur de lui-même, de Dieu qu'il est, et de son humanité crucifiée, qu'il y a une unité entre le Saint-Esprit et le Père, par exemple. C'est entre trois personnes dans la Saint-Esprit est très très puissante. Et bien l'unité de l'union hypostatique est encore plus puissante, puisqu'elle anéantit la personne humaine. Tandis qu'en Dieu, aucune personne n'est anéantie. Elles disparaissent, oui c'est vrai, elles s'effacent, dans un amour qui fait qu'il n'y a que l'autre, et que toi tu ne vois rien de toi. L'humilité substantielle, c'est ça, la messianité, vers ce vers quoi mène la messianité de Moïse, d'Isaïe, le prophète jusqu'à Zacharie, entre l'autel et le Saint des Saints, qui sont que des figures de la responsabilité de Marie et de Joseph depuis la conception, dont nous avons commémoration dans une unique mémoire, l'indivisibilité de la conception, c'est le fond de notre humilité incarnée, véritable. Voilà, il nous reste 19 jours avec Saint Joseph pour aller jusqu'au 8 décembre, à la fin de son année, décrétée infailliblement par l'Église, de l'Eucharistie, où la maternité divine de Marie engendre Dieu, à l'intérieur de Dieu, dans toute sa volonté, il prolongera ses jours. Il réussira. Il faut prendre garde, parce que j'ai appris ces jours-ci, plusieurs amis qui connaissent la grâce, qui connaissent les saints, qui ont vécu, pour ainsi dire, un apostolat même, dans l'Église catholique, et on sait par des saints, des prophètes d'aujourd'hui, qu'après leur mort, ben, ils ne sont pas au ciel. Ils sont dans le bas purgatoire jusqu'à la fin du monde. Alors qu'ils étaient reconnus comme étant des saints sur la terre, des catholiques accomplis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait en eux un point d'orgueil, même petit. Alors que des êtres qui sont baptisés seulement, qui comprennent qu'ils comprennent que Dieu est tout, et que ils sont pécheurs substantiellement, si je puis dire, et qu'ils doivent disparaître aux yeux de leurs propres yeux, et bien eux, ceux-là, ils sont méprisés comme étant, on se demande, même si on peut célébrer une messe pour eux le jour de leur enterrement, eux, ils vont au ciel presque sans délai. Alors que les catholiques, qui sont des catholiques de prière, comme on dit, des branchés, des reconnus, des apôtres, on a des nouvelles de ces quelques-uns qui sont décédés depuis deux ou trois ans, depuis quelques mois, etc., depuis quelques années. Ils vont pas au ciel. Et alors, ce qui serait terrible d'apprendre, c'est que voilà, l'un d'entre eux, ben, ira en enfer pour l'éternité, éternellement. Pourquoi ? Parce que même, vous savez, un petit cheveu, même tout petit, coupé, c'est rien du tout. Un point d'orgueil, même minuscule, fait que vous n'êtes plus catholique. Vous n'êtes plus à la droite et à la gauche de Dieu. Vous n'êtes plus dans la Sainte Famille. Vous n'êtes plus dans la sagesse de la croix. Vous n'êtes plus dans la Jérusalem qui a anéanti tous les tourments, qui a anéanti toutes les fautes, qui a anéanti toute la moindre présence, même la plus minuscule, de l'orgueil de la créature devant Dieu. C'est terrible quand on apprend par des saints, des stigmatisés, que Dieu leur révèle qu'ils sont dans une espèce de... jusqu'à la fin du monde, un petit peu comme les enfants de Fatima ont appris, quoi, que leur ami, qui avait presque leur âge, qui était décédé depuis un an à peine, était dans l'enfer jusqu'à la fin du monde, que immédiatement à la fin du monde, peut-être elle sortirait de l'enfer. Alors qu'elle pensait vraiment qu'elle était au ciel. Pourquoi ? Parce que si tu es un membre vivant de Jésus vivant, et que tu n'es pas dans l'humilité substantielle, c'est que tu ne peux pas être mis à la droite et à la gauche de Jésus, c'est-à-dire dans la Sainte Famille glorifiée, qui ouvre ses portes pour projeter l'union hypostatique de Jésus à l'intérieur du Saint-Esprit, dans le monde à créer, pour scruter les profondeurs du Saint-Esprit à l'intérieur de Dieu, et avec lui emporter le relèvement de tout, de toutes choses. Pour glorifier la première personne de la très sainte Trinité dans ses profondeurs éternelles. Et pour ça, on célèbre la messe, pour que la disparition du Christ, la disparition de Dieu, dans cet état victimal, fasse anéantir tout regard sur soi-même. Même le plus minuscule qui soit, même le plus passager, et c'est ça que nous communiquons à l'innocence divine crucifiée, de ces myriades d'enfants qui attendent que Dieu pose son regard sur eux, et pour que la communication de l'amour eucharistique se fasse en eux et qu'ils puissent s'y déployer à la droite et à la gauche de la Sainte Famille, glorifiée, ouvrant elle-même les profondeurs de son existence intérieure pour disparaître à l'intérieur du véritable sanctuaire de la paternité sponsale agréée de Dieu. Ce que le Père veut, c'est des adorateurs dans l'Esprit Saint et dans la vérité.